Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline.
Tiens, est-ce que tu connais le point commun entre Michel Rocard et l'antispécisme?
Ah non, enfin on les comprend pas bien tous les deux.
Ah mais... bah c'est pas ça, voilà. Bon, okay. Et alors le point commun entre Hegel et la paléontologie?
Il y a un jeu de mots, c'est une blague?
Non,
c'est...
et le point commun entre Houellebecq et la poubelle de la station Châtelet?
Ça c'est sûr, c'est l'odeur.
C'est... Non,
ah, si,
non,
c'est l'odeur,
non.
Si.
Asselineau et le département du Perche?
Ouais, ils sont perchés de tous les
deux. Non.
Bon, est-ce qu'on peut arrêter ce jeu débile, c'est quoi?
Mais ce sont toutes des thématiques du livre de notre invité.
Ah bah il doit être bien équilibré notre invité pour s'intéresser à Michel Rocard et aux poubelles de la RATP.
Et oh, sois sympa, on reçoit un collègue de France Culture.
C'est Adèle Van Rett.
Non,
tout...
mais non, on l'a déjà eu. Oui, enfin, voilà, on reçoit.
C'est Finkielkraut, je prends le RTT.
Non, non, c'est un écrivain qui est devenu chroniqueur.
Aurélien Bélanger, ouais. Je vois, ouais, il a bien physique de radio, lui.
Ouais, et bah, il compile ses meilleures chroniques dans un livre.
Ouais, alors, si c'est ça, moi, je vais faire l'inverse. Je vais partir de mes chroniques et je vais faire un roman.
Voilà, ah bon
bah oui, bah, il suffit de faire une très longue chronique.
Quoi, alors, en ce qui te concerne, il faudrait des très, 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 très longues brèves. Hein.
Ouais, bah, je vois déjà le titre du roman Ivre, virgule. Oh, ça sent le génie.
Et tu connais le point commun entre le prix Goncourt et Sophie Marceau?
Ouais, t'as des chroniques d'un invité.
Non! C'est deux choses que t'es pas prêt d'avoir. Bam! Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up publique. Cet open space où la blague occupe le cours central et relègue l'actualité sur les cours annexes. Telle une joueuse en demi-finale à Roland-Garros. Et voici les trois informations qui entament l'échauffement. Les écrivains réclament un meilleur salaire. Ils touchent en moyenne 8% du prix de vente du livre et ils en demandent 10%. Car c'est celui qui crée l'œuvre qui touche le moins dans l'affaire.
Bon, l'argent c'est comme le sexe, on ne devrait pas en parler autant. Sinon, moi, je dis ça perd de sa valeur ou sinon ça en prend trop, non?
On pensait avoir touché le fond du code du travail avec le métier de chargeur de trottinettes, mais la start-up Lime vient d'engager 50 personnes pour ranger les trottinettes éparpillées en travers de nos trottoirs. Ça, c'est un job pour Marie Kondo, ça.
À travers le rangement, l'objectif est d'apprendre à apprécier les choses, d'atteindre un certain niveau de bonheur et d'harmonie.
Pourquoi les assistants vocaux ont-ils une voix de femme? L'UNESCO se pose la question et s'inquiète. Est-ce pour incarner un caractère docile ou pour répondre de façon joueuse aux insultes? Ok Google, est-ce que toi aussi tu as une voix de femme?
Cassez le poil. Cassez le poil.
Okay, c'est bon, merci. Yeah, les voix de la brève sont impénétrables, ah. Sauf pour Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien aujourd'hui, nous avons que des chroniqueurs qui pourraient écrire d'excellents livres. À 17h20, celle dont l'anthologie musicale s'appellerait de manière faulknerienne Le bruit et la fureur. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Eh bien c'est exactement ça aujourd'hui, avec un groupe sud-africain qui s'appelle BCUC.
BCUC, bien sûr, on va le découvrir. 17h30, s'il sortait un recueil de chroniques, il faudrait un transpalette pour les livrer complètes. C'est vous Thomas Bidguin.
Eh oui. Bonjour tout le monde, bonjour. Et je viens vous parler moi de verdict.
De verdict.
Oui, ça tombe, on l'attend, ça tombe.
Storytelling en perspective à 17h40. Elle a déjà écrit des romans où elle se raconte un peu, elle raconte son quotidien. Celle qu'on appelle la Bukowski du Marais. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex. Bonjour le reste. Bonjour mon quartier.
De quoi qu'on va parler?
On va parler d'une écrivaine qui a inspiré par deux fois Hitchcock.
Très bien, et 17h55, on terminera la semaine avec celui qui met sa guitare dans la plaie, sans être une plaie à la guitare, c'est Frédéric Fromet.
Et voici celui qui va ambiancer l'open space, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes...
Aurélien Bélanger.
C'est lui, oui, c'est lui, c'est lui.
The Voice.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Aurélien Bélanger. Vous publiez le recueil qui rassemble vos chroniques, La France, virgule chronique, chez Gallimard, coédition France Culture, bien sûr. C'était vos chroniques sur France Culture. Alex Vizorek, je vous laisse avec Aurélien Bélanger.
Entre chroniqueurs, évidemment.
Une connivence s'installe.
Mais bien évidemment. Vous dites en quatrième de couverture que c'est Guillaume Erner qui vous a appelé pour faire ce métier de chroniqueur, vous qui êtes écrivain. Quel plaisir vous avez trouvé, vous, l'auteur de romans? Le roman, c'est le temps long, à travailler le temps court, à être là tous les jours.
Bah, l'obligation de travailler beaucoup et de fabriquer beaucoup de choses et l'obligation d'avoir des idées et de les pousser à leur terme parce que c'est très facile. Je pense qu'on a en moyenne une idée par jour, à peu près bonne, pas tellement plus. Et ce qui était amusant, c'était de la développer pendant une heure ou deux pour lui donner la forme aboutie de 3 minutes.
Mais du coup, en tant qu'écrivain, vous le relisiez peut-être le matin, mais vous n'aviez pas le temps de voir l'impact sur la longueur, il fallait livrer quoi.
C'est effectivement, j'étais en fait en pleine, enfin j'ai fait ça ces deux dernières années parallèlement à l'écriture d'un roman, et c'est assez agréable d'avoir la satisfaction immédiate d'avoir fait une chronique, surtout qu'il y a une sorte de règle bizarre, la dernière chronique qu'on a écrite est toujours la meilleure. On pense vraiment qu'on a rendu son chef-d'œuvre. Alors que le roman, c'est, parfois il y a des mois difficiles, des longs marasmes à traverser, et donc c'est agréable d'avoir des satisfactions immédiates.
Vous dites que l'écriture, l'envie d'écrire des romans vous est venue en relisant La Comédie humaine de Balzac. Vous pensez que Balzac, dans sa façon de décrire les choses, aurait fait un bon chroniqueur radio chez Guillaume Herner?
Je pense qu'il y a, il y a énormément de textes qu'il a dû faire très opportunistes, parce qu'il courait toujours, à travers l'argent. Et il n'y a pas de raison impure pour écrire. Et donc, c'est
vous demande pas votre salaire, hein. On vous demande pas votre salaire.
Mais, l'endettement n'est pas très grave. Est-ce qu'il aurait fait un bon chroniqueur? Alors peut-être oui, mais c'est peut-être la part de son œuvre qui a le plus vieilli, c'est genre ses essais sur le costume, sur le café, etc. C'est peut-être pas ce qu'on préfère chez lui.
Alors c'est ça justement. Je vais dire quelques titres comme ça donnera une idée aux gens. Une journée à Calais, l'alcool, la gare Montparnasse, Pascal, le capitalisme pastoral, les villes de province, la philosophie française, l'informatique, l'espace, le cancer.
Les poubelles à Châtelet.
quand vous travailliez cette chronique quotidienne, l'idée, elle vous venait comment? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, tiens ça, demain, j'en parle pendant 3 minutes.
Alors au début, l'idée venait toujours sur mon Vélib de retour de la maison de la radio, à peu près au même endroit, vers Alma, entre Alma et Grand Palais. J'avais d'un coup, ça serait pas mal d'en parler. Et puis comme je suis sur mon vélo, je pouvais pas écrire, donc il y avait quelques minutes de maturation mentale et je voyais à peu près où je pouvais aller. Ensuite, c'est vraiment un stress permanent de pas avoir l'idée pour le lendemain. Donc on a un petit catalogue d'idées, sachant que les idées, si elles sont trop vieilles, elles s'effondrent. Donc c'est très... Et le mieux
comme
du mieux...
Comme je vous comprends. Mon Dieu.
Non, mais le mieux du mieux, c'est le dimanche en fin de journée, quand soudain on a une idée.
Oh mon Dieu!
Et on se dit, ça me rappelle
le boulot.
Et ça nous donne une chronique d'avance. Et là, quand on a une chronique d'avance, c'est la joie totale. En ce moment, j'ai deux chroniques d'avance et c'est quelque chose de.
Un commentaire consultatif, Charles Jérôme Lacquière. Vous êtes assez d'accord avec ce qu'il dit?
Complètement. Non, ce qui est fascinant, c'est l'éclectisme des sujets. Enfin, ça part dans tous les sens. Quand vous venez de lire le sommaire, alors on se demande qu'est-ce qui relie, quelle est la matière qui relie chaque thème, finalement, entre les Houellebecq ou les poubelles de Châtelet ou l'alcool. Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître que c'est votre chronique, Aurélien Bélanger?
Ben, l'idée, c'était d'être à 360 degrés, de rien rater. J'avais été très marqué en ouvrant un jour par hasard un bouquin sur Voltaire, un dictionnaire, et de découvrir qu'un jour, il avait pris le bateau à Dieppe pour aller je sais pas où. Et il me dit, il parle de tout, Voltaire, et il parle jamais de prendre le bateau. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un prend le bateau, il en fait des tonnes, il écrit un livre, limite. Et je me dis, c'est amusant à quel point on a des angles morts qu'on ne voit pas. Et j'essaie de parler de tout et je suis obsédé par l'idée qu'il y a quelque chose dont j'aurais jamais parlé. Et donc des fois, je suis hyper content d'aborder un champ nouveau. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a quelques jours, je sais que j'ai fait un truc nouveau que j'avais jamais fait. J'étais hyper heureux. On parlait un peu de politique, par exemple, parler un peu de choses nouvelles. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc après, non, le choix des sujets, c'est là où j'arrive à articuler 3 idées, quoi. Enfin, une idée.
Il y a un point commun entre toutes ces chroniques, c'est le jeu. Vous êtes toujours au jeu, vous êtes toujours inclus dans la chronique, ça part toujours d'un rêve, vous racontez votre quotidien et puis vous partez sur la société en matière plus générale.
Bah bizarrement, c'est quelque chose que je me suis toujours interdit de faire dans mes romans, je suis jamais présent dans mes romans, c'est hyper narrateur, hyper froid, hyper neutre et c'est profondément
initial que vous occasionnellement.
Oui, bah des fois je lui prête des souvenirs et puis c'est plus facile de le faire naître au même endroit que moi et de lui donner le même âge pour des raisons de référence. Mais j'essaie pas d'arriver par-dessous, alors que la chronique, effectivement, ça part souvent d'un fait quotidien avec l'idée, alors je sais pas si ça marche bien, mais avec l'idée que plus on est dans l'intime, plus on est dans une sorte d'universel, parce que plus en fait on est dans les grandes lignes de force sociologiques ou démographiques ou je ne sais quoi qui nous dirigent et que il y a une façon de parler de soi qui est une façon de pas parler de soi.
Mais alors justement, le prochain roman, est-ce qu'il pourrait être nourri par ce que vous avez appris avec le jeu dans les chroniques? Et est-ce que ça pourrait être un bouquin écrit à la première personne du singulier?
Oui. En l'occurrence, non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois, il y a toujours cette espèce de veine. Il y avait beaucoup ça dans mes romans, et j'espère l'avoir encore, mais peut-être de moins en moins. C'est des veines un petit peu exégétiques ou j'ai oublié disgressives, raconter un truc et voilà. Et des fois, si je me dis ça, c'est quand même mieux dans une chronique que dans un roman. Donc du coup, mon roman va être peut-être un peu plus précis. D'un autre côté, ça m'est arrivé récemment en terminant un roman, je me suis rendu compte que ça serait pas mal de rajouter un chapitre. Et par contre, je sais vraiment écrire un chapitre en 1h10, quoi. Donc je suis allé à mon bureau, j'ai écrit le chapitre et je l'ai mis au début du roman et j'étais hyper content. Si on me demande, c'est une petite force, si on me demande d'écrire à peu près 750 mots, je peux le faire à la demande.
Aurélien Bélanger.
Plein de fois 750 mots.
Dans oui. Exactement. Qui s'intitule La France, chronique, bien sûr, publiée chez Gallimard, coédition France Culture. Aurélien Bélanger avec nous, de France Culture. On écoute The Little Rabbits, une belle fille comme toi. Ouais, sur France Inter.
C'est pas nouveau, nouveau.
Choix musical. Chewbacca. Vous avez entendu, Mélanie est là. Oui. Donc ça veut dire qu'on va parler musique aussi dans cette émission. Restez avec nous.
Une belle fille comme toi, tendre et superbe à la fois. Un peu perverse, d'accord, pourquoi pas. Moi, je dis pas non. On pourrait, si tu veux, faire un tour dans la pétroleuse. Et puis après, petite carrière, moi, je suis pas contre. M'endormir avec toi, pour surtout me réveiller avec toi, c'est important ça. J'attends plus que parfait, si tu veux les. Mieux que ça, moi je pourrais te caresser là. Quant à toi, tu pourrais me caresser là. Ensuite on se mettrait dans des positions indélébiles. On m'a parlé de 69, trop jeune moi, j'ai bien connu 99. C'est agréable ma foi, à l'endroit, moi.
Belle fille comme toi. Merci Chewbacca d'avoir programmé cette chanson. Nous le prenons toutes pour nous, n'est-ce pas ? Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. C'est Aurélien Bélanger qui est avec nous, l'écrivain et le chroniqueur de France Culture, dont les chroniques sont rassemblées dans un très bel ouvrage intitulé La France. Chronique. Pour entourer Aurélien Bélanger, Alex.
Et ne me dites pas qu'il y a Thomas Bidguin, Mélanie Bauer, Juliette Arnault et Frédéric Fromet qui se préparent pour terminer l'émission.
À quelle heure s'en va le train ?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence par les titres.
75e anniversaire du débarquement, Moscou a dénoncé une réécriture catastrophique de l'histoire.
Eh oui, ils étaient à deux doigts de rappeler qu'à l'époque, c'est le jeune Vladimir Poutine, âgé d'à peine 2 ans et demi, qui avait réussi à anéantir les Allemands à main nue.
Et c'est aujourd'hui que débute la Coupe du Monde de football féminin.
Et je vais vous dire, cette fois-ci, pas de somme en perspective, aucune chance de se faire battre injustement en demi-finale de la Coupe du Monde par des Français, puisque les Belges ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde.
Et des Brèves.
Et ben là, on reste champion du monde de Brèves, évidemment. Grâce à moi, essentiellement.
Évidemment, je dirais malheureusement. Mais... Allez, on commence par un petit retour sur la démission de Valérie Pécresse de Les Républicains.
Ne m'en remettez pas, alors.
Je crois que la droite, en France, est à bien plus de 8%.
Merci.
Je crois que nous devons défendre nos valeurs dans la France d'aujourd'hui.
Merci, Nicolas. Merci.
Ah, oh, Anne-Sophie Lapix s'en remet pas non plus. Passons à la limitation à 80 km/h.
Oui, car l'Assemblée nationale vote la possibilité de relever la vitesse sur certaines routes.
Et heureusement que la vitesse pour rétro-pédaler n'est pas limitée à l'Assemblée nationale. Il y a des députés de La République En Marche qui seraient verbalisés.
Mais toujours circulation, oui. À Paris, un automobiliste perd 150 heures par an dans les bouchons.
150 heures par an, dont à peu près 120 à insulter Anne Hidalgo.
Santé à présent, il faut compter 55 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, selon une estimation qui a été réalisée par le syndicat de la profession.
Et encore, ils ont dû faire le calcul avant que Castaner fasse sortir les LBD.
À Caen, des élèves français échangent avec de jeunes Allemands pour faire évoluer les conceptions de l'histoire.
Oui, c'est une bonne idée de faire évoluer les conceptions de l'histoire. Il faudrait que les petits Français parlent aussi avec les petits de l'ancienne Afrique française, des petits Algériens et tout ça. Mais chaque chose en son temps.
International, des marins britanniques contrôlés positif à la cocaïne à bord d'un sous-marin nucléaire.
Ce qu'on appelle rentrer dans la narine. Excellent.
Sport.
Excellent.
Passons sport.
Oui, aujourd'hui débute la Coupe du Monde de football féminin.
Attention, on ne dit pas la Coupe du Monde de football féminin. On dit la Coupe du Monde féminine de football, car il s'agit du même sport avec les mêmes règles.
Tous les 28 jours.
Tous les 28 jours,
les
pardon.
Tous les 28 jours. Pardon. Oula, non.
Ouais, je pense pas que ce soit une bonne journée pour les vannes sexistes, Alex.
Continue, une info conso.
D'accord. Alors, alerte sur la présence de toxines dans les moules.
Ouais, je pense pas que ce soit une bonne journée pour les vannes sexistes.
Très bien, Alex.
J'avais déjà épuisé mon quota de blagues sexistes pour la Coupe du Monde des gonzesses. Alors maintenant, je stoppe. Hein.
Très bien. People, soupçon de fraude fiscale. André Boudou, le père de Laetitia Hallyday, a été placé en garde à vue.
C'est vraiment bien que Game of Thrones se soit arrêté. On va pouvoir se concentrer entièrement sur Johnny of Côte-du-Rhône.
Et de brève.
Oui. Il entame une grève de la faim devant le domicile de son ex pour tenter de la reconquérir. Voilà, il avait vraiment la dalle dans tous les sens du terme.
Et la dernière ?
Drôme, un conducteur unijambiste contrôlé à 205 km/h sur l'autoroute au volant de sa Lamborghini. Comme quoi on peut être unijambiste et avoir le pied au plancher.
Et oui !
C'est ça les brèves, c'est vrai.
Oui, bien sûr.
Ça vous donne envie d'écrire une chronique, ça, l'unijambisme ? Non.
Bah, si c'est une voiture automatique, il n'y a aucun problème.
Il a des idées. Ça va très vite. Ça fuse. C'est Aurélien Bélanger, ça fuse. On va aborder ce premier sujet avec vous. Les écrivains touchent en moyenne 8% du prix de leurs livres. En moyenne, parce que selon que vous serez puissant ou misérable, vous pouvez gagner 12% pour les grosses restas et 5% pour les débutants ou les moins bankable, comme on dit. Les auteurs réclament donc un taux minimum de 10% pour tous. Parce que dans le fond, c'est le créateur de l'œuvre qui gagne le moins de sous.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Je suis éditeur.
Vous écrivez des bouquins ?
Non, je les publie.
Imprimeur ?
Pas vraiment. Je m'occupe des écrivains qui sont des êtres assez... comment dire ? Imprévisibles.
Ah, ok. Les autres bossent et vous, vous en foutez pas une rame, c'est ça ?
On peut dire ça comme ça, oui.
C'est bien, ça. Chouette boulot, ça, non ?
Poulvord et Dusselier dans Mon pire cauchemar, le film d'Anne Fontaine. C'est un article lu dans Le Monde. Quelle position vous avez sur ce dossier, vous, Aurélien Mélanger ? Est-ce qu'il faudrait relever déjà le pourcentage que touchent les auteurs sur le prix du livre public ?
Compliqué parce que à titre personnel, je fais partie, je pense, de la minorité d'auteurs qui en vit à peu près avant d'être chroniqueur radio. Je vivais à peu près des ventes, des ventes de mes livres, donc je veux pas défendre le point de vue des riches contre les faibles. D'un autre côté, je me suis retrouvé hier complètement accidentellement à dîner en face d'un agent littéraire important et je me suis rendu compte brutalement que c'était pas mon, enfin non pas qu'il m'ait fait une proposition mirobolante, mais je n'ai pas essayé de le séduire. C'est pas vraiment mis à parler d'argent et je me suis rendu compte que mon vrai désir c'est pas tant d'avoir beaucoup d'argent grâce à l'écriture, c'est une forme d'avarice beaucoup plus sordide. En fait, c'est accumuler des feuilles. J'ai sous mon bureau les feuilles de mes chroniques que je garde précieusement et là j'ai vraiment l'impression d'être devant un trésor et mon bonheur. Peut-être je dis ça parce que je meurs pas de faim, mais mon bonheur c'est plutôt de travailler beaucoup et d'accumuler beaucoup de papier.
L'idée que d'autres gens gagnent beaucoup plus d'argent que vous sur votre travail, ça vous dérange pas spécialement, parce que même si vous êtes dans les mieux lotis.
Je suis pas sûr vraiment qu'une personne précise gagne plus d'argent que moi.
C'est pour ça qu'ils en gagnent plus que vous. Parce que vous êtes pas sûr qu'ils en gagnent plus que vous.
Disons que je pense que si mon éditeur gagne plus que les 10 et quelques pourcents que je gagne, c'est pas une personne seule, c'est une société.
Il fait tourner tout un...
Les agents littéraires, ça veut dire que maintenant il y a des personnes qui sont... C'est comme pour les acteurs qui négocient les contrats et qui négocient le... C'est ça.
Le mien avait une quarantaine d'auteurs, m'a-t-il dit.
Ouais. Ah oui. Le fait que les écrivains
moins, soit sans doute moins bien lotis du point de vue du salaire et qui touchent peu, etc. Est-ce que ça pousse à devoir davantage écrire ou à faire autre chose sur le côté?
Oui, bah c'est le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté un peu Balzac, c'est qu'on est obligé de travailler beaucoup beaucoup et d'accepter effectivement plein de choses. Et moi, je passe mon temps à faire des articles à droite à gauche et c'est contraignant et ça fait gagner un petit peu d'argent et puis à la fin ça augmente ma pile de papier sous mon bureau, donc je suis content.
c'est ça la conséquence. Si les écrivains sont pas suffisamment bien payés, ils peuvent difficilement se concentrer complètement sur leur œuvre et sont obligés de se disperser jusqu'à peut-être jouer dans un film.
Oui, et toucher de l'argent grâce à la Dami et ses sociétés de distribution de droits.
On vous voit dans le film Sibyl, hein, de Justin.
Voilà, j'en suis réduit à ça.
non, c'est très très bien, c'est une scène très rigolote.
Je joue un éditeur, donc
c'est un film sur les départs volontaires. Sibyl, très joli film.
Vous vouliez poser une question, Alex?
Oui, je voulais savoir si vous faisiez partie des écrivains qui aiment écrire ou qui aiment avoir écrit.
Les papiers.
J'aime avoir. Rien n'est meilleur que le sentiment de fatigue après une dure journée de travail. Et la journée de travail, elle est abominable. Mais bon, il y a des petits moments très brefs. Quand ça se passe bien, le temps se dilate et puis pendant 10 minutes, il se passe vraiment plein de choses et on est assez content. Ouais. Mais je suis pas un gros bosseur. Je suis incapable de mettre à mon bureau pendant plus de 2 heures.
Ouais. Vous avez donné une interview au Monde l'année dernière où vous disiez que on revenait un peu à la situation du 19e siècle où les écrivains acceptaient toutes sortes de travaux d'écriture parce que aujourd'hui, vous dites, ils ne sont pas des artistes libres, ils ont besoin d'argent et c'est assez libérateur de faire plein de choses, de se renouveler. C'est étonnant de dire les artistes ne sont pas libres pour ça.
Non, mais avant, il y avait l'idée qu'on faisait rien et puis que tous les 3 ans, 4 ans, on sortait un roman et qu'il y avait une sorte de doctrine un petit peu jupitérienne de la parole rare. moi, il y a quelques articles que j'ai écrits où j'ai découvert, ça m'a fait l'équivalent d'une psychanalyse, quoi. Un jour, j'ai écrit un article, par exemple, pour le 1, sur les fonctionnaires, sur mon rapport aux fonctionnaires. J'avais jamais réfléchi à mon rapport aux fonctionnaires. Et réalisant qu'en fait, traditionnellement, dans ma famille, on détestait les fonctionnaires, j'ai réalisé plein de choses sur quel était mon rapport profond aux fonctionnaires. Et j'ai compris plein de choses sur mon rapport à l'État, etc.
Ça a débloqué des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Ouais. Aurélien Bélanger avec nous. Et il y a aussi Mélanie Boer pour la musique.
Oui, alors pour info, aujourd'hui, je vais beaucoup dire pour info dans cette chronique. Alors Aurélien Bélanger, vous l'avez dit, à l'époque de la sortie de votre livre sur l'Eurodance, vous êtes de la génération Dance Machine, ces garçons et ces filles séparés en boys et girls band, qui s'agitaient en juste au corps pour chanter un amour qu'ils ne partageaient sur le papier qu'avec leur public. L'Eurodance, c'était, il faut l'avouer, une musique affreuse, caricaturée avec talent par l'Irlandais Neil Annon de The Divine Comedy en 1993 et ce titre Europop. Hello. Like to hear. What if I just disappear inside myself?
Comment c'est que c'est une parodie?
C'est une parodie parce que déjà, le son. D'accord. Et aussi parce que le refrain, c'est l'Europop me donne le vertige. Je ne vois pas ce que vous trouvez de drôle dans cet amour de l'argent. The Divine Comedy qui, pour info, sort un nouvel album en ce moment même. Alors, ce qui est intéressant avec ce mouvement de l'Eurodance, c'est qu'il est la suite logique de l'Italo-Disco et de la New Wave européenne, une musique qui se démarque de la dictature rock anglo-saxonne. Et c'est ça qui est fascinant avec la musique dite populaire, c'est comment elle voyage. Prenez au début des années 2000, le rock est mort et la jeunesse blanche américaine ne sait plus quoi jouer dans son garage. Alors, elle se tourne vers l'Afrique. Ces groupes de rock découvrent la complexité de la musique du continent africain et se sont revisités déferle partout, notamment avec Vampire Weekend. Punk, premier tube de Vampire Weekend qui, pour info, a sorti un nouvel album en janvier dernier. Et c'est là où je voulais vous emmener, car tout est lié dans les grandes harmonies de la Terre. Il y a quelques jours, je suis allée voir en concert BCUC à Paris. Le collectif de Soweto présentait leur troisième album, The Healing. Et là, je me suis pris une claque musicale, comme ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Toute l'histoire de la musique était dans ce concert. Une sorte de big bang musical, une rythmique de type techno sans aucune machine, un lead singer qui part quelque part entre James Brown et Iggy Pop, une choriste qui vocalise tantôt lyrique, tantôt jazz, une basse hyper funky qui mène à la trance. Bref, plus aucun repère pour mes petites oreilles bien rangées. Ça monte comme ça pendant 19 minutes. Ce titre, c'est absolument incroyable. BCUC qui...
On va écouter entièrement pour bien
deux
profiter.
Fois, pour comprendre.
BCUC qui, pour info, veut dire Bantu Continued Uhuru Consciousness. Et quand ils ont sorti leur premier album, ils expliquaient « Nous sommes l'esprit originel du jazz, nous sommes la fondation du rock'n'roll ». Ça paraissait un peu prétentieux à l'époque, mais ils avaient raison. En allant chercher l'essence de la musique, les influences traditionnelles de tous les continents, ils ont inventé un truc qui réunit tout sur ce disque bien nommé « La guérison ». Les voici donc avec un featuring de Saul Williams, maître du spoken word et poète américain, pour un titre au nom imprononçable, donc je ne le prononcerai pas, BCUC. En featuring sur ce disque, le fils de Fela. Ouais. BCUC qui font en ce moment la tournée des festivals, ils sont partout, donc forcément pas loin de chez vous, et ça vaut vraiment, vraiment le coup en concert.
Entrée en transe, merci Mélanie Boer. Vous écoutez France Inter par Jupiter avec un chroniqueur de France Culture, chroniqueur quotidien, qui clôt la matinale avec sa chronique et dont le recueil d'un an de chronique s'appelle « La France ». Paru chez Gallimard, coédition France Culture, bien sûr. Aurélien Bélanger est avec nous. Et à côté de vous, un autre chroniqueur avec une fréquence un petit peu plus aléatoire. Mais c'est voilà. Pour ça qu'à chaque fois, c'est un événement. Ah, voilà. C'est Thomas Bideguin.
Et oui, à chaque fois, je reviens. Je reviens un peu comme Roland Garros, comme le Festival de Cannes. Je reviens captivant comme un Nadal, fond de cour comme les frères Dardenne. Grand festival cette année. D'ailleurs, vous avez vu le film Sibylle ? C'est vraiment super, même si j'étais un peu déçu parce qu'on ne voit pas dans le film le moment où Sibylle explique la nécessité de réduire les effectifs pour moderniser Radio France. Bon, pourtant c'était dans la bande-annonce, forcément c'est un peu décevant, mais le film est bien. Enfin bon, donc je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici, je parle de tous ces petits morceaux de récits, reflets de nos peurs et de nos espoirs les plus intimes que l'on transforme un après-midi de juin en bulletin de vote. flotte et qui, mis bout à bout, forme le grand récit du réveil écologique, celui-là même dont on aimerait entendre sonner l'alarme de nos torves consciences assoupies et qui n'indique en définitive à Yannick Jadot que l'heure a bien sonné pour se faire photographier dans Paris Match avec sa fiancée. Le storytelling, quoi. Voilà. Et le thème du jour dans le monde enchanté du storytelling, ce sont les verdicts. On aime ça, les verdicts, parce que on aime les couperets qui tombent, on aime les grands moments de vérité. Le public est fasciné par le verdict des urnes, qui va gagner, par celui des procès, bah, combien il va prendre, ou celui du box-office, bah, il était mieux dans le 1, Christian Clavier. On se passionne pour les ténors du barreau, pour ces grands avocats qui défendent l'indéfendable, Henri Leclerc, Dupont-Moretti, Georges Kiègemann, Robert Badinter, ou la femme de Thomas Sisley. Et l'opinion s'enflamme autour des grands procès, parce que un verdict, c'est la promesse d'un suspense. On attend le verdict dans l'affaire Vincent Lambert, comme on attendrait la fin de son biopic. Il serait joué par Romain Duris, ça, ce serait quelque chose. Voilà, bon, c'est ce qu'on appelle un rôle de décomposition. Alors, doit-il vivre, doit-il mourir, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une saison 2, on ne sait pas. Et il faisait quoi avant comme métier, Vincent Lambert? Oui, si on savait un peu plus, ça nous aiderait à décider. Par exemple, s'il travaillait chez France Télécom, ben on se dirait, il faut qu'il vive. Alors que s'il était sur le point de réduire la vitesse sur les départementales à 70 km/h, là, ça serait un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on aime les verdicts, parce que c'est clair, parce que c'est tranchant. Les Français ont voté, la droite est en miettes. Alors que c'est souvent ce qui se passe avant le verdict qui est intéressant en termes de storytelling. Avant que les Français aient voté, on savait déjà que la gauche était en miettes, par exemple. Alors que, pareil pour le verdict du procès Balkany. Eh bien, avant le verdict, on ne peut pas vraiment savoir s'ils sont coupables. Non, c'est une blague. Non, avant le verdict du procès Balkany, il y a la tentative de suicide de Madame Balkany. Et c'est pour ça que ce qui se passe avant le verdict, c'est toujours intéressant, parce que ça ne nous parle pas uniquement de l'histoire, ça nous parle des personnages. C'est ce qui se passe après le verdict, d'ailleurs, c'est un peu pareil, comme la tentative de suicide de M. Hamon. Ça nous parle des personnages. Voilà, on se souvient des grands films de procès, comme À double tranchant, Le mystère von Bülow, dans les années 80, il y en a eu plein. On se souvient aussi de 12 ans en colère, qui pourrait d'ailleurs être le titre de l'acte 38 des Gilets jaunes. Et eh bien, dans ces films, ce sont les personnages qui vont nous intéresser. Ce sont leurs tourments avant ou après le verdict. Et le verdict ne sera au final qu'un élément narratif comme un autre. L'histoire se passe souvent ailleurs. Et c'est ce qu'on voit en Irak, ces jours-ci, où sont jugés nos enfants, ceux qui ont pris la folle décision de partir se battre pour l'État islamique. On voit dans leur cas que ce qui est intéressant, c'est pas le verdict. Le verdict, on le connaît déjà, et tous ces pauvres jeunes gens seront condamnés à mort un par un, ou à la douzaine, à la va comme je te pousse, peu importe, en fin de compte. On voit bien que l'histoire se déroule ailleurs, dans les corridors du pouvoir, où sans surprise, la décision sera validée, comme d'habitude, d'envoyer dans les pays du tiers-monde se faire retraiter nos déchets les plus toxiques. Et on dit qu'un bon scénariste, c'est un bon avocat, parce qu'il doit défendre ses personnages, il doit leur trouver des excuses et surtout maîtriser le temps. Et alors, que l'on soit djihadiste, subclaquant, margoulin du 92 ou tête de liste écolo, dans le monde du storytelling, le seul verdict qui compte vraiment au final, c'est celui de l'histoire.
Thomas Bidguin, merci, c'est merci. Beau. Elle s'appellerait Verdict, cette chronique, dans votre futur recueil, sait-on jamais.
Non, moi, un pile de papier sur ma table.
Exactement. Merci Thomas Bidguin, qu'on pourrait écouter en podcast, bien sûr.
Pour comprendre.
Et sur France Inter. À venir, la chronique de Juliette Arnaud, le chroniqueur invité Aurélien Bélanger, l'écrivain et le recueil de chroniques qui s'appelle La France est disponible chez Gallimard. On va aborder cet autre thème avec vous, Aurélien Bélanger. Tandis que Radio France s'apprête donc à virer plus de 300 personnes, dans le secteur de la trottinette, on embauche, sachez-le. La start-up Lime engage 50 personnes pour ramasser les engins et les ranger ailleurs qu'en travers du trottoir. Si vous pensiez qu'on avait atteint la fin de la civilisation du travail avec les gens qui chargent les trottinettes la nuit, eh ben non, là, on creuse.
Et puis ils se garent partout, c'est pas possible.
Ah bon ça, ils ont le droit.
Eh ben peut-être qu'ils ont le droit, mais ils devraient pas avoir le droit. Ils font semblant de galérer comme tout le monde. La vie est dure, ils sont solidaires, c'est tout. C'est comme de doubler. S'ils peuvent doubler une voiture, ils s'abstiennent. Ouais, ça devrait être interdit.
Ou pourquoi?
Mais parce qu'ils sont en trottinette et que t'es en bagnole. Enfin, si toi tu fais un footing, t'as pas forcément envie de te faire dépasser par un bébé en barboteuse. Ben, ça sera quoi la prochaine étape des Youplala en libre service?
Catherine et Liliane, Alex Lutz et Bruno Sanchez. Aurélien Bélanger, vous circulez à Paris. en vélo. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous, vous avez vos idées de chronique et que vous développez dans votre... dans votre cerveau, la chronique du lendemain. C'est un article paru sur le Huffington Post qui explique que les opérateurs de trottinettes ont fini par signer une charte de bonne conduite avec la ville de Paris. Et donc, il y a, va avoir création d'emplacements dédiés pour les trottinettes. Ce sujet, si vous était imposé comme chronique, vous le prendriez par quel bout le fait qu'on embauche pour des gens pour ramasser les trottinettes?
En fait, c'est un sujet qui me fascine complètement parce que j'ai déjà 3 ou 4 abonnements de trottinettes électriques. Je trouve que c'est un moyen de transport génial, que c'est incontestablement le futur de la mobilité. Et je suis très surpris qu'on soit aussi négatif. Le problème, c'est pas que les trottinettes soient sur les trottoirs, c'est que les trottoirs sont ridiculement petits à Paris depuis toujours, et que la place attribuée à la voiture, ça doit être 70% de l'espace public, c'est scandaleux. Mm-hmm. Donc la trottinette est vraiment un sous-problème qui cache le problème massif qui est la présence des voitures. Et c'est un vrai concurrent du métro, c'est hyper drôle. Là, elles ont été bridées, elles étaient à 25. Au début, elles étaient à 30, c'était un peu dangereux. Après, elles ont été bridées à 25, et là, depuis aujourd'hui, elles sont bridées à 20. Il y a des vendeurs de trottinettes électriques en libre-service un peu faillots qui ont écouté Hidalgo instantanément et qui ont bridé à 20. Je suis rentré tout à l'heure de la maison de la radio avec une trottinette bridée à 20, c'est beaucoup moins drôle. On peut pas doubler les Vélib, enfin, ça perd d'un coup tout son intérêt.
Il y a pas un côté un peu sauvage, c'est ni positif ni négatif.
Elle aime pas les trottinettes, je veux le dire. Ça me fait plaisir d'avoir un soutien, vous êtes le premier.
Non, parce qu'il y a une sorte, quand vous parlez de brider la vitesse, ça, il y a un côté débridé dans l'usage de la trottinette, peut-être parce que ça fait pas très longtemps, qui est amusant aussi, qui peut être dangereux, mais qui peut être amusant. C'est-à-dire que, on les fout partout. Franchement, il n'y a pas une trottinette qui est droite, qui est debout à Paris. Ça peut être rigolo.
Elles ont leurs béquilles sont un peu faibles. Il suffit juste d'agrandir les béquilles.
Oui, mais c'est-à-dire dans la manière de la laisser là ou de l'utiliser, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu sauvage dans la jungle urbaine, mais qui vous plaît?
Si on réfléchit vraiment à ce qui nous gêne en ville, c'est vraiment les voitures. Une voiture, on ne peut pas passer. Une trottinette, on peut la franchir. La voiture, on ne peut pas passer par-dessus. Donc, je pense que... je pense que c'est une révolution hyper importante, que le vrai sujet, c'est pas le Grand Paris Express, c'est pas le futur métro, ni même les voitures électriques. On a découvert,
La mobilité douce.
C'est la mobilité douce, c'est incontestablement l'avenir, et le 21e siècle sera vraiment celui de la trottinette électrique.
Mais les métiers que ça a créé, est-ce qu'on peut même appeler ça métier, c'est-à-dire les gens qui toute la nuit vont ramasser les trottinettes en speedant avec leur camionnette pour aller les recharger chez eux, puis maintenant le fait qu'on paye des gens simplement pour les ramasser et les ranger, est-ce que ce côté-là très start-up nation, ça crée des bullshit jobs, quoi.
La chose existe à la RATP, il y a des métiers très durs, les gens qui refont le ballast des voies de métro la nuit, c'est des métiers très durs, qu'on seulement pour eux d'avoir un encadrement syndical meilleur, et où ils se sont battus pour que le métier soit moins dur.
Oui, mais ils sont protégés aussi.
Mais il ne faut pas imaginer que les égoutiers, c'est moins dur que chargeur de trottinette électrique. Et c'est des métiers qui sont socialement extrêmement acceptés.
Oui, bien sûr. Mais dans ce côté, là, c'est auto-entrepreneur, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de contrat.
Oui, non,
vous n'êtes pas protégé socialement, pas assuré.
Le problème, c'est que c'est développé de façon complètement foireuse, et on voit évidemment tous les problèmes. Mais l'objet est bon, quoi. C'est comme si quelqu'un... je sais pas, faudrait comparer ça à l'arrivée du cheval en Amérique avec les conquistadors. C'est n'importe quoi, mais ça finit par s'organiser.
On va s'organiser alors.
Au début, il y a des maquignons qui volent des chevaux, et ça finit en duel.
Ouais.
Et puis après, le marché du cheval se régularise.
Une dernière question. Vous réfléchissez à vos chroniques, donc à vélo ou à trottinette. Vous êtes quand même attentif à la circulation, ou vous êtes la tête en l'air?
J'ai envoyé tout à l'heure, c'est l'anniversaire de ma filleule, et j'ai envoyé une vidéo d'anniversaire. Et en regardant la vidéo que j'avais envoyée, on dirait un type qui est poursuivi par le KGB dans les rues de Moscou, parce que je regarde à droite à gauche tout simplement parce que je traversais une rue, quoi. Donc je suis hyper attentif.
D'accord, très bien. On voulait juste s'en assurer. Donc on va vous retrouver lundi matin à 8h55 sur France Culture. C'est bon. Vous avez déjà votre thème de chronique ou pas?
Trottinette, ça vient de trouver.
Je l'ai écrit ce matin.
Ah, soulagement, vous allez passer un bon week-end alors. Ça, c'est
non,
cool.
Parce que je dois écrire des articles pour ce que je suis un pauvre.
Bon, week-end de merde. Ok. Alors. Juliette Arnaud, un conseil lecture?
Oui, alors votre recueil de chroniques s'appelle La France. Le livre que j'ai choisi de parler aujourd'hui s'appelle La maison sur le rivage de Daphné Dumouriez. Alors, c'est une maison sur un rivage, mais pas en France. Je suis désolée, Aurélien Bélanger, mais attendez un peu, le lien avec vous n'est pas encore arrivé, mais il existe. Alors, une maison sur un rivage en Cornouailles. Cornouailles, c'est à l'extrémité du sud-ouest de la Grande-Bretagne. C'est le sud, certes, mais de l'Angleterre. Pas d'inquiétude pour les fans de charme british. Ils flottent là-bas, ils flottent dans le roman. Avec un narrateur qui commet une activité assez proustienne. Cette maison
du Rivage, dans laquelle il se trouve dès le début du roman, est une maison familière. Il y a passé une partie de son enfance, c'était celle des parents de son meilleur ami, Magnus. Là, on y est, Marcel Proust, Marcel, et je vous cite, Aurélien Mélanger, le seul français authentique et dont j'ai appris à la faveur d'une de vos chroniques que vous l'aviez longtemps confondu avec Sigmund Freud. Bon, c'était avant...
Jeune.
Voilà, avant que le temps se perde, quand vous étiez enfant, avant de le lire, Marcel, une confusion d'enfants qui s'avère plus tard et dans ce livre aussi. Le narrateur, c'est un homme blanc d'âge moyen. Il est lui aussi d'une certaine manière à la recherche du temps perdu, mais sans en avoir conscience sur ses terres de Cornouailles. Sa conscience, c'est que il bossait dans une maison d'édition, il vient de démissionner sans savoir ce qu'il compte faire de son temps, et sa femme américaine voudrait bien qu'il parte vivre à New York, États-Unis, et que lui bosse avec son frère à elle dans un boulot chiant mais bien payé. Elle, elle sait ce qu'elle veut, lui, il sait pas ce qu'il veut, alors pour rassembler ses esprits, il part dans cette maison en Cornouailles, parce que son ami d'enfance, devenu prof et chercheur en biophysique, l'y invite en lui disant « Hé, viens, on va prendre de la drogue !» Oui, non, alors j'exagère, ça se passe pas exactement de la sorte, en tout cas, certainement pas sur ce ton. La vérité, c'est que Magnus, le professeur, dans ses recherches savantes, a fabriqué un liquide qui lui permet de voyager dans le temps, plus précisément au XIIIe siècle, au milieu de gens qui vivaient ici, sur ce rivage de Cornouailles, et d'y être comme un fantôme. C'est-à-dire, tu prends le liquide, tu vois et tu ressens, mais les autres autour ne te voient pas et ne te ressentent pas.
Ça s'appelle le djinn.
Attends. Non, parce que le djinn ne t'envoie pas forcément au XIIIe siècle en Cornouailles.
Pas toujours.
Non, là, c'est l'absinthe.
Par le biais d'un liquide dans une petite fiole, sans doute, parce que le roman de Daphné du Maurier est écrit en 1969, c'est-à-dire pendant la décennie de la contre-culture et de l'usage croissant du LSD interdit aux États-Unis en 1967. La drogue hallucinogène censée produire un nouvel état de conscience. Si elle l'écrivait en 2019, je suppose que Magnus aurait fabriqué comme média pour traverser le temps un filtre Instagram ou un logiciel véreux ou une mauvaise cocaïne mélangée à de l'uranium enrichi. Daphné du Maurier n'est plus, et si on se souvient d'elle, c'est parce que Hitchcock a adapté deux de ses romans, Rebecca et Les oiseaux. Tout le monde s'accorde, les films sont des réussites, sauf qu'Alfred Hitchcock manque notamment un truc essentiel, Daphné du Maurier n'est pas Tolkien. Il y a les apparences du fantastique, certes, mais le drame, il est intime. Et si Hitchcock a échoué malgré la réussite de ses films, c'est que Daphné du Maurier, femme mûre à l'époque de l'écriture de ce livre, blanche et lesbienne, se balade surtout entre Proust et Freud. Même voyage confus et éclairant que vous, Aurélien Bélanger, enfant. Quant à la fiole, ou plutôt à son contenant, si ce n'est pas exactement du LSD, il contient les mêmes vertus, il est addictif et potentiellement créateur de grands dommages dans le système nerveux. Magnus le sait bien, il est scientifique, il met en garde le narrateur. Le narrateur saura-t-il se garder? Moi je le sais, je me tais, ce que je peux lâcher, c'est que ce roman de Daphné du Maurier a les mêmes vertus que le LSD, sans ses inconvénients. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Rappelez-nous les références, vous l'avez en livre de poche.
Oui, ouais. Donc c'est pas cher, ouais. C'est livre de poche, La Maison sur le Rivage, Daphné du Maurier.
Merci Juju, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Aurélien Bélanger est en notre compagnie et on va aborder ce dernier thème. Pourquoi les assistants vocaux ont-ils tous une voix de femme? L'UNESCO se pose la question et même s'inquiète dans un rapport. Est-ce pour incarner un caractère docile, parce que assistant, ou pour répondre de façon joueuse aux insultes? Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par insulter leur assistant vocal, pour jouer aussi. Hein. Oh, on s'amuse.
Ok, Mughal, quelle est la capitale du Turkistan?
Reykjavik.
Ok, Mughal, du Turkistan.
Ah, du Turkistan, j'ai compris, Turklislande. Alors, la Belgique.
Ok, Mughal, t'as bu?
Non. Non?
Ok, Mughal, si, tu as bu.
Ouais, j'ai bu un verre, ça va. Hein. On est cool, on est bien, on est là.
Ok, Mughal, souffle. Oh, le sang qu'elle
a. Oh, juste un verre.
Oh, ça va.
Hey, je bu un verre. Oh. Oh, t'as changé. Et en même temps, t'es mon frère. Et les autres, c'est tous des gros entiers.
Jean-Paul Rouvre et Alain Chabat, c'est un extrait du Burger Quiz. Voilà. Un article lu dans Ouzbek Erika sur Internet. Aurélien Mélanger, est-ce que vous utilisez des assistants vocaux, vous, que ce soit GPS, Google Home, Siri, etc.?
Non, il m'arrive de dicter, mais jamais de me
d'engager des conversations.
D'accord. Une voix féminine, est-ce qu'elle donnerait moins envie de s'énerver, vous pensez? Pourquoi est-ce que tous les assistants...
Plus, hein.
Ça pourrait être un sujet de chronique, hein. On l'a choisi, on s'est dit ça, pour Aurélien Bélanger, c'est un sujet de chronique.
Bah, mon problème, les voix synthétiques, pour moi, c'est strictement celle d'une R25 dans laquelle voiture de mon oncle et ma tante, et elle répétait d'une voix en boucle, porte arrière gauche mal fermée. et pour moi, c'est pour ça que les assistantes féminines ont les assistantes vocales ont une voix féminine, c'est que c'est celle-ci. Porte arrière gauche mal fermée.
Ouais.
Je vois pas de le dire autrement. Et je vois même pas ce qu'elle pourrait dire de plus intéressant.
À la question, pas à la question du tout. Les assistants vocaux se font insulter pour voir quelles réponses ils vont donner. Donc à la insulte you're a bitch. Il y a Siri qui répondait avant je rougirais si je pouvais, mais la réponse a été modifiée en avril. Alexa dit merci pour votre feedback. Il y a un autre assistant vocal que je ne connaissais pas qui s'appelait Cortana qui dit ça ne va pas nous mener bien loin.
Oh.
Oui, voilà. Les utilisateurs de GPS, certains disent que les voix féminines, ils ne les supportent pas parce qu'elles leur donnent des conseils de conduite. Ça veut dire que le sexisme, ça se niche jusque dans la technologie.
Je crois qu'il y a eu des GPS avec la voix de Samina Seri à une époque. Ouais. Mmh. Donc on pouvait télécharger. Oui, non, sans doute. Après, je sais absolument plus ce que je voulais dire. Je sais
parler
même pas si j'avais préparé une phrase.
Votre voix, Aurélien Bélanger, vous la travaillez un peu, vous la posez. Parce qu'il y a aussi les voix d'hommes qui peuvent signifier une forme d'autorité, la voix grave, etc. Tout ça, ça joue sur... est-ce que vous avez travaillé votre voix, vous l'avez posée ou...
J'essaie de pas parler trop vite, mais mon penchant naturel est de parler trop vite et d'être hyper inquiétant.
Donc j'essaie de faire attention. Mais parce que quand on doit rendre son travail, que vous avez mis des heures à écrire en 3 minutes et le parler, il doit y avoir une angoisse chez l'écrivain qui se dit mais peut-être l'orateur va niquer mon travail d'écrivain.
Oui, bah d'où le livre, pour avoir une seconde chance.
Et c'est vrai qu'à l'écrit, ça marche très très bien aussi. La France, bien sûr, publiée chez Gallimard, de Aurélien Bélanger, qui vient d'entrer dans ce studio, Alex.
Ne me dites pas que c'est Frédéric Fromet, bien sûr, précédé par sa guitare, comment va-t-il?
Très bien, merci.
De quoi qu'il va nous chanter?
Eh bien, je vais vous parler d'environnement, en espérant attirer l'attention sur une espèce en voie d'extinction. Pécresse, oh ma pécresse. Vauquier, oh mon Vauquier, dramatique semaine pour l'écosystème. On a perdu Vauquier et Pécresse. Pourquoi pas cette journée sans plastique, ou à Levallois une journée sans Patrick. Mais là ça va bien trop loin. Imaginez une journée sans parc à rouge, une autre journée sans Valou et son look de bourge. Je sens que tout le monde s'inquiète. Que va donc devenir la planète? Au secours, Pécresse, oh ma Pécresse. Vauquier, oh mon Vauquier. Les abeilles disparaissent et on en fait des caisses. Mais on a perdu Vauquier et Pécresse. Pécresse, oh ma Pécresse. Vauquier, oh mon Vauquier. On réintroduit le loup, mais LR, on s'en fout. On a perdu Vauquier et Pécresse. Qui peut rêver, qui peut espérer d'être sauvé par Gérard Larcher ou par Bruno Retailleau, Taillot, Taillot, Taillot. Qui a envie de Morano aux fesses, d'Éric Ciotti pour préserver l'espèce? Il faudrait rappeler Fillon avant qu'on le foute en prison. Oh non, Pécresse, oh ma Pécresse. Vauquier, oh mon Vauquier. C'est à croire que la droite serait pire que le glyphosate. On a perdu Vauquier et Pécresse. Plus qu'un refrain. Pécresse, oh ma Pécresse. Vauquier, oh mon Vauquier. Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, on vous souhaite bonne chance. On vous laisse avec Vauquier et Pécresse.
Merci Frédéric Fromé. Est-ce que vous jouez ce week-end quelque part en France?
Oui, samedi dans une fête au village à Plévin, dans les Côtes d'Armor.
Oh, très bien, dites donc. Ouais. Eh bien, ça va vous faire du voyage, on vous libère. Merci Frédéric Fromé. Merci beaucoup Aurélien Bélanger d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci.
Aurélien, on vous retrouve bien sûr lundi à 8h55 sur France Culture. N'oubliez pas qu'il y a Sophia Aram à cette heure-là aussi, bien sûr, sur France Inter. Vous pouvez écouter. Bien sûr.
On rate rien, quoi.
Podcaster Aurélien Bélanger. Et puis je rappelle le recueil de vos chroniques intitulé La France, paru chez Gallimard, coédition France Culture. Merci les amis, merci beaucoup merci Mélanie Boer, merci Juliette Arnaud, Thomas Bideguin, Alex Vizorek. Merci à toute notre formidable équipe, à la préparation Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant, Ramzi Assadi, assisté d'Emma Ferré, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation aujourd'hui, à la technique il y avait Elisabeth Collet et Guillaume Roux. Et on peut vous dire que malgré toute cette équipe, on est à flux tendu, donc on les garde.
Pas de départ volontaire.
Non, on espère pas. Merci à tous, on va bien sûr se retrouver nous aussi lundi. On va laisser le mot de la fin aux voix douces des femmes de radio.
Cassez la voix.